Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leur bottes. L'épisode de Marianne a l'odeur de la canicule estivale. Dans son alpage des Aravis, il faisait tellement chaud ce jour d'août que nous avons enregistré dehors, face aux montagnes. Force tranquille, Marianne a toujours aimé l'agriculture, même si elle a compris très tôt l'intérêt de pousser son chemin hors des sentiers des Savoies. Elle a construit son parcours professionnel autour de son projet, devenir la quatrième génération d'agriculteurs sur la ferme familiale. Elle aime autant le contact de ses animaux que celui des touristes, à qui elle explique tout au long de l'année comment elle produit son reblochon. Dans sa ferme de Haute-Savoie, elle élève des vaches laitières et des brebis, pour diversifier l'offre de fromage qu'elle peut produire. Fière de participer aux filières de son territoire, Marianne est consciente des enjeux auxquels elle devra faire face demain, tant sur le climat que sur la prédation. Au milieu d'une prairie, à l'ombre d'un arbre, nous avons discuté reblochon, pâturage et prédation. Allez, on essaie ses bottes ! Bonjour Marianne.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Je m'appelle Tiaferan Corel Marianne, j'ai 24 ans.
Quelle agricultrice tu es?
Eh ben, je suis jeune agricultrice passionnée, de mon métier. Je vis en partie pour mon métier.
Alors question rituelle, bon là t'en as pas au pied, mais comment elles sont tes bottes?
Mes bottes elles sont grandes.
D'accord. Pourquoi?
Parce que j'aime pas avoir froid en hiver.
D'accord, donc tu as la petite couche de néoprène à l'intérieur.
C'est ça.
Ok. Bon, on va repartir un peu de ton enfance, tout ça. Où est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce qui faisait tes parents? Dans quel contexte tu as grandi ton enfance jusqu'à l'entrée au collège? Après, on en parlera.
J'ai grandi dans un petit village de Haute-Savoie, à Serraval. Donc, mes parents ont toujours été sur la ferme familiale. Donc, je suis la quatrième génération à travailler sur l'exploitation. J'ai eu la chance de grandir au milieu des montagnes, dans un petit village très tranquille de Haute-Savoie.
T'as des frères et sœurs?
J'ai un grand frère,
ouais,
qui lui a quitté ce petit cocon familial et qui est parti pour ses études à Paris et qui est resté là-haut.
C'était quoi tes jeux quand t'étais petite dans ce cadre-là?
Ben nous, c'était d'aller jouer dans la forêt, d'aller jouer dans la boue. Et plus on revenait sale, et plus on était contents.
À quel moment tu t'es dit que tu aimerais être agricultrice?
C'est quelque chose que j'ai toujours aimé étant petite. Après, je savais pas si je voulais être entre guillemets que agricultrice ou faire autre chose dans le para-agricole. Donc j'ai réfléchi longtemps, j'ai fait un peu autre chose et je suis revenue ici parce que ça me manquait quand même pas mal.
Moi, je vois le panorama que j'ai devant moi. Est-ce que juste pour ceux qui écoutent, tu peux un peu décrire où est située ta ferme, qu'est-ce qui l'entoure, quelle est voilà.
Eh ben la ferme, elle est située dans le massif des Aravis. Donc à l'extrémité du massif des Aravis, proximité du canton de Faverges. Je suis été-hiver en face du beau massif de la Tournette.
D'accord. Et donc ça, c'est le col de la Tournette hein,
C'est le massif de la Tournette pile en face de nous. Et donc, on pratique la transhumance. Mais on a un grand avantage, c'est que vu qu'on change pas trop d'altitude, ben on change jamais du été ou hiver.
Ouais. Là, c'est magnifique en tout cas.
Donc on se lève tous les matins avec la Tournette et on se couche tous les soirs avec la Tournette.
C'est quand même très très beau. Le collège, c'était loin de chez toi? Tu devais être interne? Comment ça?
Non, au collège, on était à 10 km
ouais.
de la maison.
Oui, d'accord, donc ça va. Tu as fait des études agricoles après?
Après, je suis partie en études agricoles, donc j'ai fait le choix. Donc il y a pas mal d'écoles agricoles dans les Savoies, mais j'ai fait le choix de partir en Ardèche.
D'accord, pourquoi?
Je voulais voir autre chose, voir vraiment changer des Aravis et de la Haute-Savoie et voir d'autres agricultures.
D'accord. T'avais quel âge quand t'as fait ce choix-là?
En seconde, t'as 16 ans.
C'est ultra jeune. Enfin, tu vois, pour réfléchir déjà que t'as envie de voir autre chose.
Ouais,
c'est,
j'avais à peine 16 ans.
D'accord. Et du coup, t'as fait quoi comme diplôme? Enfin, t'as obtenu quoi?
Donc, j'ai fait un bac pro CGEA, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole.
Mmh. D'accord. Et une fois que t'as eu ce bac?
Une fois que j'ai eu le bac, j'ai fait le sens inverse de tout le monde, donc je suis revenue dans les Savoies.
D'accord.
Et donc j'ai fait un BTS agricole à la Motte Servolex à Rénac, donc un BTS Axe.
D'accord, ok. Et donc à la fin, tu avais 20 ans,
voilà.
21, et maintenant t'en as 24, donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Donc entre les deux, je suis partie passer le CAFTI. Donc je suis partie pour passer le diplôme d'insémination. 6 mois dans l'Ain pour apprendre à inséminer. Où je suis tombée sur une super équipe d'inséminateurs où j'ai vraiment adoré. Et après, du coup, vu que l'Ain c'était sympa, mais c'était pas encore chez nous. Donc je suis revenue à la coopérative des Savoies, donc à Éleveurs des Savoies. Et là, j'ai inséminé 3 ans à Éleveurs des Savoies.
Ok, donc tu montais dans les alpages, tu montais... Comment ça se passait?
Ouais, voilà, été-hiver. L'hiver, on était en vallée, l'été, on faisait le tour de tous les alpages.
Ouais, ça devait être chouette, quoi.
Voilà, voir des beaux paysages. Ça fait pas mal de routes, mais c'est quand même des endroits... Il y a des endroits magnifiques où aujourd'hui, j'ai plus suffisamment le temps d'aller.
Et du coup, est-ce que ça t'a permis de... Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà ton projet d'installation et du coup, tu regardais toutes ces exploitations que tu voyais avec un petit œil qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien
Ouais, alors j'avais déjà le projet de m'installer avec mes parents quand j'ai attaqué à l'Éleveur des Savoies. On savait juste pas sur quel laps de temps j'allais m'installer.
D'accord.
Donc on a un projet en fait de moderniser la structure et de faire un bâtiment. Du coup, j'ai une grande passion pour les bâtiments.
Après les vaches, les bâtiments.
Du coup, j'ai beaucoup regardé tous les systèmes d'exploitation qui existaient, un petit peu les choses à gauche, à droite. Je me suis renseignée un peu auprès de plein de gens sans vraiment le dire directement, mais essayer de trouver les points forts, les points faibles un peu de chez tout le monde pour essayer de faire un peu un méli-mélo de tout ça.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a été le déclencheur de ton installation?
Et bah, un jour, on a dit on se lance, on a envie de travailler tous les trois, donc on y va maintenant. Et voilà, mes parents sont encore quand même très jeunes. Donc c'était l'avantage de pouvoir créer quelque chose à trois sur un laps de temps suffisamment long.
Et alors, comment ça s'est passé en fait au moment de... Entre le moment où vous prenez cette décision un peu de manière collégiale et le moment où tu es agricultrice, qu'est-ce qui se passe?
Ah bah moi je trouve que ça a été assez vite. Hein.
Ah bah, pour une fois que quelqu'un me dit.
Parce que bah en fait c'est que ça a été assez vite, c'est qu'on a enchaîné beaucoup de projets d'un coup, donc en fait ça, on a chamboulé pas mal de choses dans nos façons de travailler et dans nos projets futurs. Mmh. Du coup, j'ai pris rendez-vous au PAI, classiquement. Voilà, on a fait notre rendez-vous installation. Oui. J'ai attaqué mes stages tranquillement aussi. Du jour où j'ai posé ma démission au jour où j'ai attaqué à travailler sur la ferme, tout s'est enchaîné très vite. On a fait les stages, on a tout rempli. Mmh. En parallèle, on faisait plein de chiffrages pour notre projet bâtiment. Ouais. Donc, ça s'est enchaîné très vite et du coup, on a fait, j'ai fait 10 mois d'année d'essai avec mes parents.
Ouais.
Et du coup, je me suis installée au 1er février 2022.
D'accord. Et tu viens de dire que en fait, vous aviez envie de travailler à trois, que du coup, vous aviez plein de projets. Est-ce que tu as eu la sensation que tes parents, ces projets-là, ils les auraient menés sans toi? Ou est-ce que tu as finalement été un peu le fioup qui a le déclencheur qui a permis de les lancer?
Sans mon installation, ils auraient jamais voulu investir autant pour moderniser la structure.
D'accord.
Avant que je m'installe, on avait déjà refait un peu des modifications sur l'alpage, des rénovations, des choses comme ça, sur des investissements à petite échelle.
Ouais.
Donc ça avait été déjà fait un peu, mais ça aurait pas été plus loin.
D'accord, ok. Et donc concrètement, est-ce que tu te souviens du matin où tu étais officiellement agricultrice?
Non, je me souviens du premier midi, ouais.
Ouais. Et tu t'es dit, alors qu'est-ce qui s'est passé du coup?
On a fait un bon casse-croûte, ouais.
Ouais.
Voilà, on avait 2-3 copains à la maison, donc le premier jour d'installation, vraiment le premier jour du guet, quoi. On a fait quand même un repas avec des amis pour dire c'est aujourd'hui.
Ouais, c'est cool, c'est chouette. Aujourd'hui, le bâtiment, vous l'avez construit?
Absolument pas.
D'accord. Une passion.
C'est toujours en cours. Bah, ouais. Le problème, c'est que je me suis installée, donc ça a été très vite. Et le problème, c'est qu'après mon installation, on est tombé sur le Covid et la guerre en Ukraine.
Ouais.
Et du coup, on n'a pas perdu notre idée de départ. Mais du coup, tout a pris beaucoup plus de temps.
Ouais. D'accord.
Parce qu'au lieu de refaire plusieurs fois les devis, on les a fait 10 000 fois.
Ouais.
Vu que les cours bougent tout le temps, c'était un peu compliqué. Et là, on espère toucher le bon bout pour cet hiver.
D'accord. Et en gros, le projet du bâtiment, c'est quoi? Enfin, parce que faire un bâtiment pour faire un bâtiment, ça sert à rien. Ça va vous apporter quoi, ce nouveau bâtiment?
Le projet du bâtiment, c'est donc aujourd'hui, en hiver, on a un système 100% entravé.
Mm-hmm.
Notre envie principale, c'est de fabriquer une stabulation libre pour les vaches.
Ouais.
Donc on n'augmenterait pas en vaches. À l'heure actuelle, on a 53-55 vaches. Donc on resterait pareil. Donc l'idée, ce serait de faire une stabulation pour les vaches pour déjà qu'elles gagnent en confort et que nous, on gagne aussi en confort de travail.
Bien sûr.
Ce qui changerait pas mal notre organisation de tous les jours. Et en plus, on voudrait faire Donc j'ai un petit troupeau de brebis pour l'instant, on voudrait augmenter en brebis, donc faire une bergerie.
D'accord.
Et donc avec ça, faire la fabrication, okay. Le labo de fabrique et les granges.
Oui, bon voilà, en gros vous refaites tout le site.
Tant qu'à refaire, autant que tout refaire, voilà.
Ok, tu as des vaches, quelles sont les races?
Donc on a des vaches, donc on a environ 55 vaches, on a essentiellement de l'abondance.
D'accord.
Et après, on a quelques Montbéliard et quelques Tarines.
D'accord, ok. Histoire de...
histoire de changer un peu.
Ok. Donc, je l'ai vu, elles ont toutes un nom.
Oui.
C'est laquelle la plus sympa?
La plus sympa, oula. C'est Marina.
Et la plus relou?
Ah, la vache à mon papa, la pose.
Tu seras content de l'entendre. Des brebis, t'en as combien, du coup?
Alors, pour l'instant, c'est un tout petit troupeau parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour les garder. Pour l'instant, on en a 12 en lait.
D'accord. C'est quoi comme race?
C'est de la Lacone.
Ah
forcément.
Évidemment. Elle est irlandaise, c'est normal. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, vous faites de la transfo à la ferme?
Ouais. Donc on fabrique tout le lait été-hiver, donc des vaches sur la ferme en reblochon fermier.
Ouais.
Et là, les brebis, c'était la première année de lactation, donc ça fait là, on arrive à 6 mois de lactation. Donc on fabrique aussi tout sur la ferme.
Tu l'as dit, vous avez deux sites d'exploitation puisque vous avez dans la vallée et à l'alpage.
Voilà.
Donc c'est un mode d'agriculture un peu différent de ce qu'on peut connaître en plaine. Pour toi, vu que tu as été voir ailleurs comment c'était, c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce fonctionnement-là?
L'avantage, c'est qu'on est toujours content d'en monter, mais on est toujours content de redescendre.
D'accord. Ok.
Non, l'avantage.
Vous montez à quelle période à peu près?
Donc on monte autour du 8 mai.
D'accord.
Et on redescend autour du 10 octobre.
D'accord. Ok. Ok.
Donc l'avantage, nous en fait, on pratique la transhumance, mais on pratique la transhumance dans un système un peu particulier, c'est qu'on entre l'hiver et l'été, on a que 50 mètres d'altitude d'écart.
D'accord.
En fait, souvent les transhumances, elles se font sur des très gros différences d'altitude. Ouais. Nous, on a un alpage un peu atypique qui est très bas en altitude. Donc, on peut monter très tôt au printemps et on pourrait rester encore plus tard à l'automne.
Ouais.
L'avantage, c'est qu'on peut faire les foins en bas autour du bâtiment et monter. En fait, l'alpage est sur le versant de l'envers.
Ouais.
Donc, il est un peu plus frais que,
oui,
que l'autre.
Aujourd'hui, on ne le sent pas forcément. Mais... ça veut dire qu'ici, l'hiver, c'est complètement plein de neige, mais qu'autour de ton bâtiment, vu que c'est pas très loin, c'est plein de neige aussi.
Ouais. Alors, ici, l'alpage, il est enneigé. Et vu que c'est le versant, du coup, ce que j'ai dit de l'envers, donc la neige, elle reste énormément.
Ouais.
Donc, même s'il neige pas beaucoup, il y a des hivers où on arrive à venir faire la fête ici l'hiver sans souci. Il y a des hivers où il y a trop de neige, où on n'arrive pas à descendre le chemin.
D'accord.
Qu'en bas, même s'il neige, au bout d'une ou deux journées, souvent, il n'y a plus beaucoup de neige.
D'accord.
Donc, okay. On est exposé plein sud, ça fond assez vite.
D'accord. Et après, sur la qualité de l'herbe, est-ce que ça a un sens avec si peu d'écart d'avoir ce système de double?
Non, on a quasiment la même herbe.
D'accord, ok. Ouais.
Nous, ça, on n'a pas un gros changement sur ça.
Et ça veut dire que sur le lait, vous avez un lait qui est relativement stable sur l'année,
ouais.
Ouais, par rapport à d'autres où il y a du lait d'été,
ouais,
du lait d'hiver.
Nous, il n'y aura pas cette grosse différence.
D'accord, ok. Comment vous les commercialisez, les fromages?
Donc, on vend 80% de notre production à un affineur.
D'accord.
Donc, qui est situé à Annecy, c'est la fromagerie Pochavis. Eux, après, ils ont leur circuit de commercialisation essentiellement avec la grande surface.
D'accord.
Donc, on a sur 80% de la production, on a une grande partie qui part en filière qualité Carrefour.
Et après, les 20%, vous les vendez en vente directe?
Après, on vend 10% en direct et après, on a deux petits marchés, mais qui représentent pas un très gros tonnage, quoi.
Et aujourd'hui, au sein du GAEC, entre toi et tes parents, vous êtes tous complètement polyvalents ou est-ce que vous avez tous votre petit secteur préféré et bon, même si vous savez faire...
Alors, aujourd'hui, on est tous 100% polyvalents, hormis ma maman qui va pas trop faire les foins.
Ouais.
Mais on est quand même très spécifique sur nos tâches.
D'accord.
Donc, moi, je vais gérer tout ce qui est fabrication, transformation, l'élevage des veaux, tout ce qui est reproduction et un petit peu la traite.
Mmh.
Et ma maman va faire en partie la fabrique avec moi, la traite, et mon papa va faire plus tout ce qui est traite, alimentation, matériel.
Du coup, les foins, vous les... Alors, bon, on enregistre dehors, là, on voit les paysages. C'est dans des pentes comme en face? Enfin, c'est dans des pentes... Ok, c'est sympa.
Ça, c'est une pente qui n'est pas trop pentue.
Super, ok, très bien.
Non, bah, après, on a du matériel adapté.
Oui, bien sûr, ouais. Non, mais nous aussi, on a des pentes, mais c'est vrai que c'est quand même pentu, quoi.
On a 2-3 plats, là.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. De ce côté, il faut regarder de l'autre côté. T'as été voir ailleurs, puis finalement, t'es toujours revenue en Savoie. Pourquoi c'est important pour toi d'être agricultrice en Savoie?
Je trouve que dans les Savoies, on a des filières très importantes. On a des appellations qui sont quand même renommée et de qualité. Et ça fait quand même plaisir de travailler avec un produit qui est reconnu au niveau français, certes, mais plus encore.
Et tout à l'heure, quand tu t'es définie comme agricultrice, t'as dit passionnée. Alors souvent, les agriculteurs, ils sont passionnés par les tracteurs, ils sont passionnés par les animaux, ils sont passionnés par la technique, la génétique. Toi, c'est quoi le dénominateur de ta passion ?
Mais c'est compliqué comme question, parce que je suis autant passionnée par mes animaux que par mon produit fini.
D'accord. Eh ben, alors, tu vois, ouais.
Pour choisir vraiment...
Bon, j'accepte les deux, allez. Ouais. J'accepte les deux.
J'aurais dû choisir quand même.
Est-ce que tu aurais pu être agricultrice ailleurs ?
Eh ben, je me suis souvent posé la question. Il y a des régions de France qui m'auraient vraiment attirée avec des productions totalement différentes, mais où j'ai pas assez la connaissance
comme quoi.
Pour...
comme quoi ?
Ouais, comme la viticulture, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé apprendre,
ouais.
Que je connais pas suffisamment, mais je crois que si je m'y serais vraiment intéressée, ça aurait pu... Ça aurait pu vraiment me plaire, ouais.
Ouais. Il y a toujours cette notion de produit fini. Donc toujours, c'est peut-être ça, finalement, le dénominateur.
Toujours produire quelque chose et avoir un produit à la fin de qualité. Mais la viticulture, ouais, c'est un métier qui m'aurait bien plu.
Après, il y en a un peu en Savoie. Et pas à cette hauteur, peut-être.
Non, chez nous, ils ont arraché les vignes. Je pense que c'était une bonne chose.
D'accord.
On va laisser ouais. faire...
les professionnels.
Ouais, voilà.
OK. C'est quoi, là, t'es... Alors, on a compris le bâtiment qui va arriver à... court moyen terme. À plus long terme, tu as dit que vous aviez plein de projets avec tes parents, il y a l'installation des brebis, c'est quoi vos... Enfin, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais dans les années à venir sur l'exploitation ?
Moi, j'aimerais bien développer, mais pareil, c'est quelque chose que j'aime énormément et qui prend beaucoup de temps, c'est vraiment développer encore plus la vente directe,
ouais.
Faire des marchés, aller au contact des gens, ça c'est quelque chose qui me plairait vraiment. On y réfléchit.
Ouais, ça prend du temps aussi. Ouais.
Voilà. Mais avoir une clientèle fidèle que tu retrouves toutes les semaines, tous les 15 jours, je trouve que c'est quand même une marque, enfin, signe que tu produis vraiment quelque chose.
Et justement, là, quand on prend la route pour monter jusqu'à l'alpage, on voit qu'il y a plusieurs exploitations qui font du reblochon fermier, en vente directe à la ferme et tout ça. Donc j'imagine que le tourisme, c'est aussi une manne pour vous de vente.
Ouais.
Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'avoir des gens qui viennent une fois comme ça et puis ou que tu revois pas ou t'as pas forcément de retour ou finalement t'es quand même content de faire découvrir tes produits à des gens
J'adore faire découvrir mon exploitation et mon produit. Là, durant tout l'été, les jeudis matins, on fait des visites à la ferme,
d'accord.
En partenariat avec un camping qui est situé sur une commune à côté. Et en fait, je trouve ça génial de faire découvrir. Bon, beaucoup de gens connaissent le reblochon, mais au final, très peu savent que le reblochon, ça se mange pas que en tartiflette.
Oui.
Voilà, et faire découvrir un produit, faire découvrir vraiment comment on le produit,
ouais.
Dans quel contexte. Je trouve ça quand même vraiment super. Et c'est des gens qui reviendront peut-être l'été prochain,
ouais.
Ou peut-être pas du tout.
Ouais.
Mais j'espère idylliquement peut-être que la prochaine fois qu'ils achèteront un reblochon en grande surface, ils repenseront à l'été quand on est allé en Haute-Savoie.
Et concrètement, là, quand vous faites la traite sur l'alpage, l'unité de transformation, elle est sur le site de la vallée ?
Non, en fait, on fabrique tout sur le site de l'alpage.
D'accord, ok. Donc ça veut dire que là, il y a un petit endroit...
D'accord. On a nos locaux de fabrication directement sur l'alpage.
Et après... Vous l'affineur vient le chercher, vous le lui livrez.
Donc on...
Enfin, le fromager, je sais plus si c'est un affineur.
C'est un affineur.
Ouais, c'est ça.
Du coup, on descend deux fois par semaine, donc à une quinzaine de kilomètres, donc sur Thône.
D'accord.
Et là, de Thône, ils emmènent un camion jusqu'à Annecy. Pour,
et ils regroupent tous les gens qui les leur amènent.
On se réunit tous à Thône, on charge le camion et le camion descend à Annecy. Après, ça rentre en cave à Annecy.
D'accord. Si toi, tu tombes sur un fromage en grande surface, est-ce que tu es capable de reconnaître le tien ?
Ouais.
C'est vrai ? Putain, c'est génial.
En fait, c'est tout bête, mais avec la traçabilité aujourd'hui, c'est assez facile. Et chez notre affineur, on a un numéro de producteur.
Ouais.
Et donc, en fait, si on sait lire les étiquettes de l'affineur, en fait, on sait quelle livraison c'est, quel producteur c'est.
Ah, c'est génial.
Donc voilà, on sait que le code, c'est, pour nous, par exemple, c'est 0,25.
Donc sur l'étiquette, voilà, t'arrives à déchiffrer,
ça va
savoir
être 0,25 avec la date de livraison.
C'est cool. C'est génial.
J'en ai pas encore trouvé, mais...
mais je peux.
Mais je peux. J'ai trouvé ceux de mes voisins, c'est déjà pas mal.
C'est un peu blasant, j'imagine.
Enfin, on regarde pas tous les jours non plus.
Oui, je me doute. Est-ce que tu te souviens, au moment où tu t'es installé, du meilleur conseil que t'aies reçu ?
Alors, je me souviens du pire.
Alors, vas-y, ça m'intéresse aussi, j'allais te poser après.
Bah, fais pas ça.
D'accord. Et qui te l'a dit ?
Un agriculteur bientôt à la retraite.
Ouais, qui aura pas de reprise, sûrement.
Voilà. C'est ça. Du meilleur conseil qu'on m'a donné, je crois que C'est un petit peu avant que je m'installe, mais quand j'ai annoncé à certains éleveurs de Haute-Savoie chez qui j'allais inséminer que j'allais arrêter, il y en a un qui m'a dit de ne pas prendre en compte ce que les autres diront et de faire ce que j'ai envie de faire.
Donc t'as dit ton frère il est pas sur l'exploitation et est-ce que tu te souviens de lui avoir annoncé que tu reprenais ou est-ce que pour lui ça a toujours été évident
Si, je me souviens lui avoir dit.
Et alors comment ou tes grands-parents comment ils ont réagi, comment l'entourage a réagi?
Mes grands-parents ça fait ni chaud ni froid.
Ils sont toujours sympas les grands-parents.
Voilà. Par contre mon frère il m'a dit ah cool je vais gagner de l'argent. Parce que c'est là que je lui ai expliqué que j'allais acheter des parts sociales.
D'accord. Non. Pragmatique.
Non, sinon il était content que je reprenne avec mes parents et que ça me plaise.
C'est important pour toi cette lignée familiale d'être la quatrième génération. Tu l'as dit un peu dans ta présentation.
Si, c'est quand même une fierté. Après, je l'ai pas fait parce que j'étais la quatrième génération. Tout à l'heure, tu me posais la question de est-ce que j'aurais été agricultrice autre part. Justement, avec mes parents, on a souvent réfléchi de si jamais notre projet ne marche pas ici, est-ce qu'on ne partirait pas ? Et du coup, la réflexion est encore de mise. C'est sûr que ce serait difficile de partir d'ici.
Ouais, là, surtout un jour où il fait beau comme aujourd'hui.
Voilà. Après, tu viens au mois d'octobre, c'est vachement moins sympa. Donc,
je me doute, comme partout.
Voilà. On garde quand même cette idée de si ça ne marche pas ici, on pourrait continuer notre ferme, enfin notre histoire autre part. Tous les trois, on pourrait y arriver.
Et pour toi, c'est quoi la clé justement du fait que vous vous entendiez aussi bien et que vous preniez autant de plaisir à travailler ensemble tous les trois ?
On ne s'entend pas bien tous les jours.
Non, c'est peut-être la clé.
Mais après, on a déjà une... Avec mon papa, on a déjà une philosophie un peu pareille au travail. Donc déjà, je pense qu'il fait que ça marche bien, c'est qu'on est quand même des très gros bosseurs et que des fois, on est peut-être un peu trop la tête dans le guidon et qu'on regarde peut-être pas trop pas suffisamment ce qui est à côté. Après, ce qui fait que ça marche, c'est que des fois, il faut crier plus fort que l'autre.
Et le choc des générations, tu l'as vécu quand tu t'es installée ?
Oui, je le vis encore sur les façons de faire et sur nos envies à chacun. On n'a pas forcément les mêmes envies au même moment, ni les mêmes façons de faire, et des fois ça clash un peu.
Ouais. Et justement, tu vois, toutes les considérations de la nouvelle génération, le changement climatique, le bien-être animal, enfin tu vois que finalement c'est intégré pour la nouvelle génération, ou c'était pas forcément évident pour l'autre, comment tu réussis à amener aussi ces aspects-là?
Sur le bien-être animal, ça a été assez facile, entre guillemets, c'est que au début, quand on a parlé du bâtiment, ils voulaient reconstruire une entravée. Et moi, pour la simple et bonne raison, j'ai dit que si c'était pour refaire une entravée, j'investissais pas en 2022 pour faire une entravée, c'était hors de question, donc je m'installerais pas. Au moins là, ça a été assez facile de le faire passer. Après, il y a des sujets sur le climat où on voudrait faire différemment, on n'est pas d'accord et ils veulent pas changer leur façon de faire parce que eux, ça marche. Pas dit que c'est la meilleure façon, mais ça marche et là, c'est compliqué de faire changer les choses.
D'accord.
Sur des choses toutes bêtes, mais comme la gestion du pâturage, comme des choses comme ça, on n'a pas les mêmes envies et pas les mêmes façons de faire. Et là, c'est un combat de tous les jours. Mais...
Comment on fait ? Parce qu'en fait, on a tendance souvent à dire que l'herbe, c'est une culture. Tu vois, il faut se dire que l'herbe, ça se cultive. Oui. J'imagine que toi, tu es quasiment à 100% en prairie naturelle.
100%.
Voilà, donc tu es 100% en prairie naturelle. Est-ce que tu fais quand même du travail agronomique ou est-ce que finalement la nature fait bien les choses ?
La nature fait bien les choses, mais après il faut toujours faire attention pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes, donc faire attention aux mauvaises herbes, faire...
Et concrètement, comment t'interviens s'il y a trop de mauvaises herbes ?
On va faire un traitement chimique.
D'accord.
Vraiment en ponctuel et en localisé, mais ça va être traiter des ronces sur une période de l'année, traiter des lapes, des géraniums.
D'accord.
Ça dépend les problèmes qu'il y a. En fait, on va faire vraiment en ciblé sur des parcelles données.
Ok. Les brebis et le pâturage ?
Oui.
Vous avez des problèmes de prédation ici ou pas ?
Oui.
J'aime bien les sujets qui...
Alors, moi, non. Ouais. Donc, les brebis pâturent, mais autour de la ferme d'hiver.
D'accord.
Et elles sont dedans tous les soirs.
D'accord.
J'ai vraiment une grosse trouille de ça, alors j'ai énormément de mal à les emmener plus loin. Il y a eu des grosses attaques, il y a moins d'un mois, il y a eu 40 brebis tuées d'une seule nuit, donc c'est vraiment quelque chose qui me fait peur.
Ouais.
Et c'est ce que je disais, ce que j'expliquais à des gens en visite il n'y a pas si longtemps. Moi, la peur du loup, je ne l'ai jamais connue. C'est vraiment quelque chose, quand j'étais petite, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pour moi, c'était un peu une légende urbaine. Parler d'un loup, ça me faisait ni chaud ni froid. Quand dans l'hiver j'en ai croisé un avec la voiture et que j'ai pilé, je me suis demandé si j'hallucinais ou pas. C'est Pas pareil, ça. Tu sais qu'il y en a, mais de là à les voir, c'est pas pareil.
Et du coup, les gens, j'imagine, qui viennent visiter, c'est des gens qui sont pas forcément issus du milieu rural. C'est un sujet que tu arrives à leur faire percevoir. Parce que, en fait, l'impact que ça peut avoir sur un agriculteur d'un point de vue psychologique et humain.
Bah, en fait, quand on vient à ce sujet, les trois quarts des gens vont dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans la nature. Chose que j'entends totalement et que je comprends, hein, je suis d'accord avec eux. Mais quand tu leur dis que t'as des amis qui dorment plus la nuit, qui tremblent, qui vont veiller toute la nuit parce qu'ils ont des attaques tous les jours, qui vont jusqu'au suicide et qui perdent la tête totalement, en fait, ils réalisent pas en fait à quel point ça peut aller loin.
Ouais, c'est ça. C'est difficile à faire comprendre ça.
Et en fait, quand tu leur expliques que oui, il y en a qui vont jusque-là à plus dormir de la nuit, à être stressés tout le temps et avoir peur même pour leur propre famille, là, ils réalisent un peu plus que oui,
c'est pas qu'un gentil loup sur une photo, quoi.
Je dis, enfin, comme tu leur expliques que tu ramasses des cadavres tous les jours, c'est quelque chose. Que t'aies peur pour ta propre vie et la vie des autres, c'est autre chose, quoi.
Ouais. On va revenir à toi. Je vais te poser quatre petites questions. Tu réponds du tac au tac. Est-ce que tu peux me dire le dernier film que tu as aimé?
C'était Mission Impossible.
Le dernier achat que tu as fait pour ton métier?
J'ai acheté des chaussures.
Voilà. La dernière chanson que tu as fredonnée?
Quand je suis arrivée chez moi, mon voisin chantait Hakuna Matata.
La dernière recherche Google que tu as faite?
C'était en lien avec ma réunion d'aujourd'hui. Le tonnage produit en reblochon comparé au tonnage produit en roquefort.
D'accord. Ben merci, des Lacones, du roquefort. On va bientôt dire que les Arabistes, ça en avait rond. Est-ce que tu es fière aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui.
De quoi?
Bah, je suis fière qu'on ait passé un bel été. Je suis fière qu'on arrive à avancer dans un contexte agricole dans les Savoies qui est quand même porteur pour l'instant. Et je suis fière qu'on ait des filières aussi fortes. C'est beaucoup de boulot. Il y en a qui bossent beaucoup pour ça. Ils font pas toujours les bons choix, mais comme dans tous les métiers, ouais, ils seront toujours critiqués. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on arrive quand même à s'en sortir grâce à tout ça.
Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi?
Que je suis relou. Non, souvent ce qui ressort, c'est que j'ai toujours la bonne humeur et que j'ai toujours l'air contente.
Ok. Dernière question. Comment tu t'y sens dans tes bottes?
Là, j'ai chaud aujourd'hui.
Merci Marielle.
On peut être adolescente, mais savoir que l'on doit s'éloigner de son territoire d'enfance pour s'ouvrir au monde. On peut avoir adoré travailler dans les services agricoles, mais ne jamais perdre de vue son idée d'installation. On peut vivre dans un territoire magnifique et en apprécier encore la beauté chaque jour. Enfin, on peut être agricultrice en Haute-Savoie et élever des brebis Lacones originaires d'Aveyron. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes.